votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy. Et à 19h20, on se tourne vers demain. Demain, c'est la fin de l'école. Alors quel bilan tirer de cette année si particulière? Avec vous pour en parler, Rodrigo Arenas, co-président de la Fédération des conseils des parents d'élèves.
Bonsoir Rodrigo Arenas.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio Europe 1. On s'est souvent parlé pendant cette crise sanitaire, mais oui, par téléphone cette fois. Vous êtes là parce que les enfants aussi ont retrouvé le chemin des classes, oui, depuis le 22 juin. Le président Emmanuel Macron avait fait l'annonce le 14. Et vous vous disiez sceptique hein, quant à sa réalisation. À cette heure-ci, à la veille hein, de la fermeture et de l'acquis pour les enfants, quel est votre bilan de ces deux semaines, deux semaines de reprise de cours?
Ben dans les deux semaines qu'on vient voir, on a bien vu que dans la relation déjà entre les enseignants et les parents, ça a énormément changé. D'abord parce que les parents ont compris enfin qu'enseignant c'est un métier. Et dans les enseignants, je pense qu'ils ont compris aussi qu'ils avaient besoin des parents pour pouvoir faire en sorte que les enfants soient bien, d'être accueillis, qu'ils soient heureux d'aller à l'école. Il nous semble que les enfants, d'une façon très générale, voire assez unanime, sont très contents de retourner à l'école parce que la resociabilisation était une priorité, de retrouver leurs camarades de classe et aussi leurs enseignants qui ont su tisser des liens d'affection très forts avec eux, finalement a été la grande victoire de ce confinement, c'est-à-dire le lien d'affection, le lien d'amour, parce que l'école est avant tout une histoire d'amour entre la République, j'ai envie de dire, dont les enseignants sont les principaux représentants au niveau de nos enfants et eux-mêmes.
Donc c'est un satisfecit, parce que vous doutiez, vous étiez très sceptique quant à ce retour à l'école. Là, vous dites finalement, ça a fonctionné. En plus, on a quoi? On a pratiquement 98% hein, des enfants qui sont retournés dans les classes. Hein.
Ce qu'on doutait surtout, c'était une réalité au tout début du retour à l'école, c'était les parents qui n'avaient pas confiance dans les conditions sanitaires, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre le discours des scientifiques, et notamment du conseil scientifique, et celui des décideurs, il y avait un réel hiatus en fait, qui était de nature à inquiéter les parents. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des parents qui nous disent qu'ils sont inquiets notamment du reconfinement. On pense à Lisbonne, on pense à la Chine, on pense aux États-Unis aujourd'hui, qui mettent beaucoup d'incertitudes, notamment sur la rentrée de septembre. Rentrée de septembre qui, au moment où nous parlons, nous ne savons toujours pas comment elle va s'effectuer, nous ne savons pas comment est-ce que la France fera face si on doit reconfiner l'école.
C'est pour ça aussi que ce test des deux semaines, finalement, je parle de test, ces deux semaines-là, était une manière aussi de tester, effectivement, de voir comment on pouvait imaginer la rentrée. Vous ne me le dites pas, hein, vous ne me dites pas que c'est insatisfecit à aucun moment, vous me dites qu'il y avait des bonnes choses, mais vous ne me dites pas, oui, c'est vrai, ces deux semaines, elles sont vraiment utiles, c'est bien, heureusement qu'on l'a fait.
Non, parce que depuis le début, nous avons dit que, d'ailleurs, que les enfants devaient retourner à l'école. Simplement, le hiatus que nous avions avec, et nous l'avons toujours d'ailleurs, parce que pour le coup, ça, c'est pas insatisfecit, il ne s'agit pas d'être heureux ou pas heureux, c'est ce que nous disions à la FCPE, c'est que ce n'était pas la rescolarisation qui prenait, c'était la resociabilisation, et c'était ça la priorité. La priorité, c'était de redonner que les grandes lettres de noblesse au fait que l'école est une aventure humaine, et qu'on ne pouvait pas dire, on reprend l'école, on refait le français, les maths, etc. Comme si, c'est ça aujourd'hui que nous disions, non seulement nous doutions, mais en plus ce n'aurait pas été efficace, et ça aurait été aussi demander aux enseignants de faire quelque chose qu'ils n'étaient pas en mesure de faire. Comment est-ce que, par exemple, on peut apprendre le français à un enfant qui a vécu confinement dans des conditions difficiles.
Bien entendu. Savez-vous combien de parents ont pu retourner sur leur lieu de travail grâce à la réouverture des écoles?
Alors normalement, les parents sont tous retournés sur leur lieu de travail. D'abord parce que ceux qui restaient à la maison sont passés au chômage partiel, même quand les écoles étaient fermées. Ça a été d'ailleurs une des principales remontrances que nous avons fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux parents de garder les enfants, même si nous avons notre job de parents, on garde les enfants. Ça c'est normal, on les a eus, donc on les assume. Mais pour autant, on ne pouvait pas demander aux parents de ne pas retourner travailler et que les enfants aillent à l'école et faire un arbitrage en fait ou les garder à la maison alors qu'il n'y avait pas de place à l'école au début. Rappelez-vous, il n'y avait pas de place à l'école pour tous les enfants. Ça se traduisait par une perte de salaire. C'était une double peine pour les parents qui était contraire d'ailleurs à ce qui se disait de précarisation aussi d'un certain nombre de nos concitoyens.
Qu'est-ce que vous dites à ces écoles qui n'ont jamais rouvert leurs portes, qui n'ont jamais accueilli d'élèves finalement là à ce stade? Parce qu'il y en a eu, c'est une très petite proportion, mais c'est arrivé.
En fait, c'est pas à nous de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Il y a un employeur, c'est l'Éducation nationale. Il y a des villes ou des départements ou des régions qui sont censés mettre le bâti à jour. Ces six écoles-là n'ont pas ouvert. Il y a des raisons et il faut que ces raisons soient levées et étudiées pour pas que ça se reproduise.
C'est un manquement à leurs obligations.
Je peux pas vous dire parce que c'est du cas par cas. Donc, est-ce que si ces écoles n'ont pas ouvert parce que les conditions sanitaires ne permettaient pas de le faire, il est est normal qu'elle protège la santé des enfants.
Est-ce qu'on n'en a pas trop fait sur les conditions sanitaires avec le cercle au moins d'au moins un mètre de distance au départ, le lavage des mains à plusieurs reprises dans la journée, le rappel des images dans les cours, la distance dans les, l'impossibilité de jouer à deux aussi dans les cours. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait, sachant qu'on a finalement assez rapidement su que les enfants n'étaient pas contagieux?
On peut dire aussi le contraire. Est-ce qu'on n'en aurait fait pas assez si jamais on aurait eu une recrudescence de l'épidémie? Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on ne commande pas une décision d'un conseil scientifique comme on commente un match de foot. Voilà. Nous, on est parents d'élèves. On n'est pas là pour faire des commentaires d'analyse de santé publique. Il y a un État dans ce pays. C'est à eux de prendre la responsabilité d'écouter ou pas, d'ailleurs, les recommandations du conseil scientifique. D'ailleurs, le président de la République n'a pas tenu compte de la note du conseil scientifique du 20 avril qui disait qu'il fallait reprendre en septembre.
Voilà, qui était de ne pas retourner à l'école, effectivement, avant la rentrée de septembre.
Exactement. Donc, aujourd'hui, la situation fait que tout le monde se déconfine, tout le monde arrête de mettre des masques, etc. Donc, évidemment, moi, en tant que citoyen, mais aussi en tant que responsable de fédération, j'espère que ça se passera bien, mais maintenant il y a des inquiétudes qui sont d'un autre ordre. L'autre ordre, par exemple, ce sont tous ces parents qui ne savent absolument pas ce qui va être mis en place dans le supérieur pour ces élèves qui ont eu le bac et qui ont eu pendant plusieurs mois pas d'école en fait, ou une école vraiment pas continuelle, et qui ne savent pas comment, ce que met l'université en place pour tous ces élèves-là.
Ça, vous c'est avez une des délais inquiétude. On vous donne des réponses, on commence à vous donner des dates, au moins des échelons.
Oui, non, aujourd'hui, on ne sait pas. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais entendu la ministre du supérieur, Madame Vidal, dire que ce qui a été mis en place dans l'université pour accueillir ces enfants-là, les dispositifs de rattrapage qui vont être mis en place, on ne sait pas. Alors que pendant le confinement, les petits effectifs ont été une vraie chance pour les enfants et pour les enseignants. Il y a 110 milliards d'euros qui vont être mis pour l'industrie. On ne sait pas combien de milliards vont être mis en place pour réduire les effectifs dans les classes. Parce que ça, c'est efficace. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à l'effondrement de l'école, parce que l'école s'est effondrée pendant le confinement. Il faut se le dire, pas pour se morfondre, mais pour au contraire, parce que c'est une vraie opportunité pour faire autre chose. On ne peut plus continuer comme avant. Et on a quand même le sentiment qu'on est en train de faire comme si la vie normale allait reprendre et ne pas tenir compte de cette école qui a eu des vraies difficultés et tous ces enseignants qui ont souffert dans la séquence. Ces enseignants ont souffert, comme les enfants et comme beaucoup de parents aussi, notamment sur télétravail.
Bien entendu. Qu'est-ce que vous dites donc pour la rentrée, a priori, bon? La date est calée, la date est fixée pour la rentrée scolaire. Vous êtes autour d'une table en ce moment pour en dialoguer avec les directeurs d'établissement, avec les représentants du rectorat ou des enseignants.
Alors, il y a des discussions qui sont entamées avec le ministère, mais j'ai envie de vous dire, c'est des discussions où on écoute, mais qui n'aboutissent à pas grand-chose, on va dire, de novateur et d'innovant. Ça n'a pas réellement d'intérêt. Vous voyez, par exemple, la question du numérique, ce n'est pas une question d'équipement. C'est comment est-ce qu'un outil numérique devient un lien entre un enseignant réel, en chair et en os, et pas un programme informatique avec un enfant en chair et en os qui ne doit pas répondre à des attendus en forme algorithme, en forme format Facebook. Le numérique n'est qu'un outil de lien. Il ne saurait remplacer un enseignant. Et la crainte que nous avons pour la rentrée, c'est celle-là. C'est qu'on aille vers une société, vers une école qui devienne de plus en plus informatisée, où l'enseignant ne serait plus un métier, mais serait un emploi juste bon à évaluer les élèves avec des attendus, avec des résultats auxquels il faut répondre de façon automatisée. C'est ça qu'on craint. Cette école qui, comme aussi dans les entreprises parfois, ne résiste pas à cette orientation vers une sorte d'automatisation ou de robotisation du métier d'enseignant. L'école, c'est une aventure humaine, il faut le rappeler, et on a des vraies craintes par rapport à ça, notamment avec les débats qui actuellement sur les questions d'évaluation des élèves, qui tendent à avoir des évaluations un peu comme des algorithmes, dont Parcoursup a été d'ailleurs un des prémices, plutôt que de renouer, de dire que enseignant c'est un métier, qu'il faut investir massivement dans l'école pour avoir des plus petits effectifs et former les enseignants à cette situation qui peut se reproduire.
Et les enfants dans tout ça, les enfants que vous représentez aussi à travers les parents, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont été marqués finalement, ou que c'est peut-être eux qui s'en sont le mieux sortis à l'issue de ces deux semaines? On est quand même dans une satisfaction des enfants et on a gommé cet épisode douloureux quand même pour beaucoup du confinement.
Il n'y a pas de situation homogène pour les enfants comme pour les adultes. Il y a des situations d'ailleurs qui ne sont pas dites. Par exemple, les enfants qui ont été victimes de maltraitance, libérer cette parole est un métier. C'est le travail des psychologues scolaires notamment, ou des psychologues tout court, ou des juges pour enfants aussi, dont c'est le métier avec leurs équipes de révéler cette parole-là. Tout ce travail-là de prendre soin des enfants n'a pas été révélé. D'ailleurs, on voit que dans cette mode des vacances apprenantes, on voit bien qu'on n'a rien appris. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui ont besoin de se reposer, ils ont besoin de se retrouver avec leurs parents dans d'autres considérations. Vous savez, nous on dit à la FCPE en ce moment que les vacances c'est à la mer, c'est pas à l'école. Et c'est cela qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre les enfants dans des cadences infernales. Sauf si on veut renouer avec la chanson de téléphone, où finalement on finit au barbiturique, à l'alcool et aux antidépresseurs.
Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Rodrigo Arenas d'être venu ce soir, coprésident de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci beaucoup.